Benjamin Petrover est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Bernard Arbois, bonsoir à tous.
Benjamin, vous avez été journaliste à Tel Aviv pendant de longues années. On se souvient de vous sur I24, vous animiez notamment des débats importants et vous êtes de retour à Paris. J'aimerais avoir votre avis en tant que journaliste israélien, mais franco-israélien, mais y compris en tant qu'homme, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous trouvez que se termine la guerre du 7 octobre, qu'on appelle aussi la guerre de Tkouma, de Renaissance? Comment vous trouvez que cette guerre se termine avec le prince héritier saoudien qui est en visite aux États-Unis, qui fait des contrats absolument dingues, qui dit, comme on l'a entendu à l'instant avec Dror à Tel Aviv, je veux faire partie des accords d'Avraham, donc chose de très positif, mais qui dit aussi, je sais pas, je veux un État palestinien, donc qui dit aussi non, qui dit oui et non en même temps. Comment est-ce que vous trouvez que se termine quelque part cette guerre du 7 octobre?
Déjà, Bernard, je ne sais pas si cette guerre est totalement terminée.
Ah ouais.
Ensuite, je pense que le débat concernant l'Arabie Saoudite est antérieur au 7 octobre. Si vous en souvenez, et moi je m'en rappelle, la veille du 7 octobre, moi sur les 24 news, et j'imagine vous également à ce moment-là sur Radio Shalom, nos grands thèmes sur lesquels nous débattions, c'était l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. Et je me souviens même qu'à l'époque, j'avais des intervenants et des invités qui me disaient la signature des accords d'Abraham et de la paix Israël-Arabie Saoudite aura lieu en janvier ou février. Soit 3 mois après le fameux mois d'octobre 2023 qui commençait, a été totalement interrompu le 7 octobre avec les atrocités commises par le Hamas. On a l'impression qu'en fait, là, c'est un retour à la case départ. Alors c'est vrai, vous dites fin de la guerre. D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que la fin de cette guerre permet de remettre au centre du jeu ce qui était en discussion avant. Et au fond, on remarque d'ailleurs qu'aucun pays signataire des accords d'Abraham ne s'est retiré après le 7 octobre et après les opérations militaires israéliennes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plutôt un naturel optimiste. J'ai l'impression que ce qui devait se jouer il y a 2 ans est en train de s'organiser maintenant. Voilà. 7 octobre ou pas 7 octobre. Au fond, MDF, il avait des impératifs militaires. Il est allé chercher aux États-Unis chez Donald Trump. Il avait aussi des contingences politiques, c'est-à-dire réclamer un État palestinien, c'est ce qu'il a toujours voulu. Ça a toujours été un préalable. Et côté israélien, la volonté de faire la paix avec l'Arabie Saoudite est toujours la même. Maintenant, on ne sait pas ce que ça veut dire un État palestinien, Bernard. C'est quand même ça qui est important de comprendre. C'est un mot sur un papier. Mais si, finalement, sur le papier, il est indiqué une feuille de route vers un État palestinien, ça fera plaisir et à MBS, et à son public, et également à Benjamin Netanyahou. Il dit, bon, un c'est chemin, une voie vers l'État palestinien, on a le temps de le voir venir. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. Et au milieu de tout ça, il y a tout de même un homme qui est novateur dans sa façon de voir la signature des accords de paix, c'est Donald Trump. Il a surpris tout le monde. Il a fait revenir en un temps record tous les derniers otages qu'Israël n'arrivait pas à récupérer. Et ensuite, il arrive à faire signer la paix entre des pays qui ne se parlaient pas parce qu'il a une approche novatrice. Avant, quand on parlait de paix, il y avait un côté, vous savez, dialogue, bonnes âmes, fraternité, on va s'aimer, on se serre la main. Ou ce sont tous de la poignée de main, Rabbi Arafat. Pour Trump, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas de serrer la main. Pour lui, c'est de faire un deal. C'est un commercial. Il est là pour faire des deals. C'est un homme qui vient de l'immobilier. Et si on comprend ça, on ne peut pas comprendre ses démarches. Là, il veut faire des deals. Ils veulent qu'Israël et l'Arabie Saoudite fassent du business. Et il veut lui aussi pouvoir faire du business avec les pays de la région. Et c'est peut-être cette approche novatrice qui est en train de permettre de dessiner un nouveau Moyen-Orient.
Mais d'ailleurs, les accords d'Abraham ont été construits sur cette idée aussi, puisque les Émirats Arabes Unis avaient eux-mêmes déjà demandé des avions pour accepter de signer. Là, les liens sont évidemment avec des proportions absolument titaniques, titanesques. Quand vous avez un chef d'État qui peut tranquillement dire « je pense que je vais investir 1000 milliards de dollars dans votre pays », on atteint des proportions qui sont folles. Et en vous écoutant, je me disais aussi que, en fait, le 7 octobre a été déclenché, c'est ce que disent les gars du Hamas, parce qu'ils voyaient
absolument
que l'Arabie Saoudite était en train de signer. Et ils ont dit, le jour où l'Arabie Saoudite signe les accords d'Abraham, c'est fini pour nous, c'est terminé.
Absolument, Bernard, ça a été fait pour ça. C'est ça aussi l'une des vraies raisons du 7 octobre. Et en cela, c'est un échec immense pour le Hamas.
Ah oui.
Cette résolution qui a été votée à l'ONU, résolution américaine, sur cette force internationale à Gaza, est en train de signer l'arrêt de mort du Hamas.
Ah oui.
Il faut le voir, j'entends certains commentateurs dire « Ah, c'est mauvais pour Israël, cette force internationale ». Évidemment, on a en mémoire la Finule et ses capacités très limitées à défendre la frontière, et il sera évident qu'Israël tiendra bon pour qu'il n'y ait pas une force militaire qui soit similaire à la Finule, totalement inefficace face au Hezbollah, mais il n'empêche, qui dit force internationale dit fin totale du Hamas, et ça a toujours été la priorité de Benjamin Netanyahou.
Alors vous dites « Je suis un éternel optimiste », c'est vrai. Et oui. Également un homme qui aime vivre, chanter, rire. Et il se trouve que vous êtes aussi consacré à la chanson. Et notamment, alors, et c'est une espèce de voyage entre Tel Aviv et Paris, puisque notamment les chansons qui sont traduites en hébreu ou les hits français qui sont repris en Israël et inversement, Mike Brandt, l'Israélien aimé ici... À Paris, on va vous retrouver sur scène le 26 novembre prochain. C'est à la mairie du 16e arrondissement. Une soirée que vous organisez avec le Keren Hayesod en soutien aux enfants de Nekba. C'est quoi Nekba ?
Alors Nekba, c'est une association qui est située à Be'er Sheva. Et ça me tenait très à cœur de leur donner, de leur dédier ce concert, parce qu'on parle énormément de Tel Aviv, de Jérusalem. Vous savez, pour les Français, il y a un triangle d'or. Le triangle d'or, c'est Tel Aviv, Netanya, Jérusalem. Et en dehors, on ne connaît pas. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle l'Israël de la périphérie, et notamment Be'er Sheva, où il y a énormément de besoins. Et Nekba fait une action absolument incroyable pour aider les enfants défavorisés. Donc, il y a à la fois de l'aide alimentaire, pour avoir un bon régime, leur trouver un logement, et surtout leur trouver des formations pour qu'ils ne se retrouvent pas esselés dans des chemins de travers, qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Ça, c'est le pire. Et justement, Nekba fait un énorme travail. Et ce sera un grand et beau concert qu'on va donner dans une semaine tout juste, mercredi prochain. Pour moi, Bernard, ce sera une première parce que toute l'année écoulée, je donnais surtout des concerts à l'Écluse et je salue Gadi Guy pour son accueil, qui était plutôt dans l'Est parisien. Et là, c'est mon premier concert dans l'Ouest. Donc, pour les gens qui habitent le 15e, le 16e, Neuilly, Boulogne, c'est plus facile pour venir. Et le 17, ce sera beaucoup plus facile pour venir. Et on va chanter, comme vous l'avez dit, ensemble, les grands tubes français qui sont arrivés jusqu'en Israël. Aznavour, Joe Dassin, Beko, Michel Fugain. Et de l'autre côté, les grands tubes israéliens qui sont arrivés jusqu'en France. Les chansons d'Ofra Haza, les tubes d'Eyal Golan. Bref, ce sera une grande soirée de fête. Fête avec aussi une grande différence par rapport à mes concerts précédents, c'est que désormais on peut vraiment laisser exploser notre joie. Parce que c'est vrai que ces derniers mois, quand on chantait, il y avait toujours ce petit pincement au cœur en se disant « les otages ne sont pas là et on les pleure ». Là, cette fois-ci, les otages vivants sont tous de retour. Il reste évidemment quelques corps à récupérer, mais il n'empêche, les otages vivants sont là et on peut donc chanter et laisser enfin exploser notre joie. Et ce sera une grande fête mercredi prochain à la mairie du 16e.
Mercredi prochain, 19h30, mairie du 16e arrondissement de Paris en soutien donc à un programme pour les enfants de Be'er Sheva avec le Keren Hayesod, Benjamin Petrover. On va chanter en français, en hébreu, on va chanter des hits, passer une soirée ensemble. Et c'est vrai que maintenant que les otages sont rentrés, c'est plus du tout les mêmes soirées qui sont les nôtres. Et donc c'est mercredi à la mairie du 16e arrondissement. Je vais faire une confidence aux auditeurs en votre présence, Benjamin. Moi, j'ai rencontré Benjamin Petrover au moment où Rita, la chanteuse israélienne, lançait un disque sur la scène internationale qui n'était pas en hébreu.
Et ah mais c'est... oui. Oula, c'est loin Bernard. Time for peace.
Elle est belle celle-là.
Ah oui, je ne l'attendais pas.
Et on s'est retrouvés dans les couloirs de Universal avec cette grande chanteuse israélienne qui entamait à l'international. Elle était considérée par Pascal Nègre et par Universal comme une de ses priorités. Parce qu'il voulait faire connaître une grande chanteuse israélienne sur la scène française. Et c'est, je crois, que, c'est pas je crois, je sais, c'est le premier jour où je vous ai vu.
Ah là, Bernard, hein,
elle est belle.
Mais moi, je vous écoutais déjà depuis longtemps.
Ah, merci. Merci.
Mais c'est vrai que c'est drôle que vous parliez de ça aujourd'hui, ouais. Alors qu'on parle des accords d'Abraham, parce que la chanson qu'avait sorti Rita pour se faire connaître sur le marché français, elle avait traduit le discours d'Yitzhak Rabin. Vous savez, lorsqu'il disait « Time for love, time for peace », il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, etc. etc. C'était le texte de Rabin qu'elle avait mis en musique en espérant se faire adopter par le public français. Bon, malheureusement, ça n'a pas réussi. Et c'est vrai que les chanteuses israéliennes qui percent en France, alors imaginez maintenant en plus dans le contexte, c'est quelque chose de très rare, mais oui, oui. Mais c'est un beau souvenir en tout cas, Rita de Passage à Paris. C'est une chanteuse que j'adore.
Benjamin, avec le Keren Ayesod, mercredi prochain,
voilà.
Un dernier mot de Paris, si vous me permettez.
Tout petit mot pour les auditeurs qui voudraient s'inscrire ou connaître les renseignements sur le concert mercredi prochain, negba.org/gala. Negba, ça s'écrit N-E-G-B-A, tout simplement.
Benjamin, merci à vous. Tout de suite, le forum des auditeurs. Alors juste vraiment, ne croyez pas que je profite, mais si, je profite. Vous, vous diriez quoi à la question du forum? Vous diriez que Trump peut imposer un État palestinien ou pas? Juste oui ou non?
Oui, mais sous quelle forme?
Il ne le fera pas. Merci à vous, Benjamin Trovert.